Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Ô mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité.
Bien chers amis, salutations cordiales au nom du Seigneur Jésus. Puisse sa grâce, source du salut pour tous les hommes, être avec chacun de vous. C'est l'émission En sa présence, une œuvre du Centre biblique sous la présentation de votre serviteur indigne, Danny Wetchai. La Coupe du Monde de football a bel et bien commencé. Elle suscite pas mal d'intérêt, d'engouement et d'émotion chez des multitudes de gens. Chacun se range derrière son équipe nationale ou simplement celle de sa préférence. La question qu'on peut se poser est celle de savoir pourquoi toutes ces équipes de joueurs se passionnent-elles autant pour le ballon rond, ce ballon gonflé et rempli d'air. Est-ce uniquement pour le plaisir? Ce serait de la vanité, comme le dit le roi Salomon dans l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Mais quelle est la chose qui motive ces formations sportives, en particulier leurs joueurs, à courir ainsi pendant 90 minutes derrière cette boule de vent? J'ai vu même un joueur ivoirien pleurer au début du match, juste à la présentation des joueurs avant le coup d'envoi. Pendant le match, alors que son équipe était menée, j'ai entendu le reporter dire que son geste au début du match était peut-être un porte-malheur contre son équipe. Mais en définitive, on a appris que ce joueur, 2 heures avant le début du match, recevait la mauvaise nouvelle du décès de son père. La question que je me suis posée, c'est de savoir pourquoi alors était-il resté pour jouer ce match? Eh bien, c'est à cause des sommes d'argent. Des sommes d'argent colossales sont en jeu et attendent d'être prises par le vainqueur de la compétition. C'est cela qu'on appelle la coupe. Et le vainqueur, on l'appelle le champion. J'ignore pour le moment qui sera le champion de la Coupe du Monde de cette année qui est en train de se dérouler actuellement. Mais je ne suis pas là en ce moment pour discourir sur la Coupe du Monde de football, bien que ce soit un sujet intéressant à plus d'un titre. Je voudrais plutôt vous parler de ce qu'on pourrait appeler la Coupe du Monde de la vie éternelle, ou la Coupe du Monde du salut. Sachant que, dans la Bible, la vie chrétienne est comparée à une course. Vous savez que pour remporter une coupe en football, vous devez livrer 2 matchs et les gagner. Et pour gagner un match de foot, vous devez marquer des buts. Donc, ce qui compte, et qui est le plus important, c'est le but. Le but sanctionne le résultat. Vous avez marqué plus de buts que votre adversaire, eh bien, vous êtes dans ce cas victorieux. Par contre, si vous marquez moins de buts que l'équipe adverse, ou si vous n'en marquez pas du tout et que elle en marque n'est fût-ce qu'un, alors vous êtes absolument perdant. Lisons dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, et même le méchant pour le jour du malheur. C'est la première partie de ce verset qui m'intéresse parce que je la considère en relation avec ce message. L'Éternel a tout fait pour un but. Vous êtes une créature des dieux. Dieu vous a donc créé pour un but. Quel est le but de votre vie? Dans la Genèse, au chapitre 1, verset 26, Dieu dit ceci. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dans quel but Dieu vous a-t-il? Que dis-je? Excusez-moi, je vais vous tutoyer. Dans quel but Dieu t'a-t-il créé à son image et selon sa ressemblance? Le sais-tu ou ne le sais-tu pas? Le texte que nous avons lu dans Proverbes, au chapitre 16, verset 4, nous donne la réponse, d'après la version Darby. Je lis. L'Éternel a tout fait pour lui-même. Voilà. L'Éternel a tout fait pour un but, selon la version Louis II. Et ce but, c'est quoi? On va dire, ce but, c'est qui? C'est Dieu lui-même, selon la version Darby. Le but pour lequel Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance, c'est lui-même. L'homme a été créé pour dépendre des dieux en vivant en communion profonde avec lui. Et le moyen pour que cette communion de vie soit parfaitement accomplie était l'arbre de vie que Dieu a placé au milieu du jardin. Nous lisons au chapitre 2 de la Genèse, le verset 9. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 16, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » L'arbre de la vie est ce point d'achèvement que l'homme devait atteindre pour voir se réaliser pleinement et éternellement la vie des dieux en lui. Parce qu'il a été tiré de la poussière, symbole de vanité et de néant, et tant qu'il n'allait pas manger de l'arbre de la vie, eh bien, il n'était qu'une âme vivante. Une âme vivante. C'est-à-dire un être mouvant, ou un être mouvementé, un être en agitation. La vie de plusieurs ne semble être que de l'agitation. Il bouge dans tous les sens. Il tourne à tout vent. Il se tourne vers toutes les directions de la vie, à la recherche du succès, de la gloire, à la recherche d'argent, à la recherche de quelque bonheur. Ils veulent gagner le monde. Ils veulent être champions de quelque chose, champions de ceci ou de cela. Mais souvenez-vous de ces paroles du Seigneur qui disait « Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ?» Je me souviens d'un frère qui avait besoin d'un poste de radio. Alors, il en a fait la commande dans un magasin. Et le magasin qui devait lui fournir l'article vint le lui laisser à la maison. Quand ce frère ouvre ce poste de radio, eh bien, il tombe sur la fréquence de RFI. Et qu'est-ce qu'il entend? Vous êtes à l'écoute de RFI, Radio France Internationale, le monde chez vous. Il dit, quoi? Le monde chez moi? Non, je ne veux pas du monde chez moi. Retour à l'expéditeur. Voilà. Oui, Adam n'était qu'une âme vivante. Malheureusement, Adam, le premier homme, créé une âme vivante, ne mangea pas de l'arbre de la vie. Et en cela, il manqua le but des dieux. Il pécha. Le premier sens du mot péché dans la Bible est celui-là. Passer à côté du but. Adam ne marqua pas le but de la vie éternelle. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, dans sa première épître, au chapitre 6, au verset 20 à 21, il lui dit ceci. « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. » Au verset 21. « Quelques-uns, pour en avoir fait profession, ont, en ce qui concerne la foi, manqué le but. » Adam a manqué le but de Dieu, qui était celui de manger de l'arbre de la vie pour pouvoir avoir la vie des dieux consommée en lui. Que fit-il à la place? Que fit-il à la place? Il mangea de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu lui avait interdit. Or, cet arbre représentait l'indépendance de l'homme vis-à-vis des dieux, la volonté propre de l'homme, et par conséquent, la mort. En cela aussi, l'homme pécha. Le péché, c'est aussi quoi, selon la Bible? C'est la violation de la loi des dieux. selon 1 Jean au chapitre 3, verset 4. Il y a des gens à l'esprit entêté qui n'ont de plaisir qu'à violer toute interdiction en famille, à l'école ou au travail. Dans leur indépendance, ils se croient souverains et inconditionnels. Ils vont à l'encontre de toute règle. Ils ne peuvent gagner de cette façon-là la coupe du monde de la vie éternelle. Ils sont morts, c'est-à-dire séparés éternellement des dieux. Ils n'ont pas bien discerné le but de leur vie. Cher ami, quel est le but de ta vie? Est-ce que tu vis sans but? Il y a des gens qui disent, « Oh ben, j'ai fait ça pour rien. » Pour rien? Il faut être dans le règne animal pour agir sans but. Il y a même une science qu'on appelle la téléologie, qui s'occupe de la finalité des choses. Dieu a tout fait pour un but. Quel est ce but, d'autre part? Lisons dans Ésaïe au chapitre 43, au verset 6 et 7. « Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin, et mes filles de l'extrémité de la terre. Quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire, j'ai créé, formé et fait. » Le but pour lequel Dieu a tout fait, c'est sa gloire. Tu as été créé pour la gloire de Dieu, et non pour ta propre gloire, ni pour la gloire du diable. Il y en a dans cette ville qui ont fait d'eux-mêmes leur propre idole. D'autres encore se sont vendus au diable pour recevoir la gloire dans tel ou tel domaine de la vie. Je pense ici aux musiciens, je pense aux artistes, je pense aux politiciens, je pense aussi aux commerçants, oui, aux commerçants, qui ont fait de l'argent leur Dieu, maman. Je te pose une question, cher ami. Te prosternes-tu devant un tout autre être que Dieu? Quelle abomination! Beaucoup passent tout leur temps en train d'étudier pour obtenir des diplômes qui vont peut-être les rendre très importants dans la société. Par cela, ils croient pouvoir avoir de la gloire. Certains sont à la recherche effrénée de l'argent. Ils se jettent à corps perdu dans les affaires, oubliant que le monde des affaires, dit-on, est près de l'enfer. Ils recherchent une certaine gloire à travers cela. Il y en a qui pensent que s'ils se tapent beaucoup de femmes, alors ils auront une certaine forme de gloire. Une femme qui accompagnait un frère en Christ, qui était mon cousin et qui était venu me voir au bureau dans les locaux d'un ministère chrétien, il y a de cela 10 ans, plus même de 10 ans, elle était une fonctionnaire du Parlement national, tout comme le frère en question. Quand elle m'a vu, elle voulut savoir auprès du frère qui j'étais et qu'est-ce que j'avais fait comme étude. Après avoir reçu la réponse à ses questions, elle s'exclama en ces termes. « Mais ce beau monsieur perd son temps dans les affaires des dieux. Il s'est trompé d'adresse. Il aurait pu venir travailler au Parlement avec nous pour avoir de l'argent et s'est tapé beaucoup de femmes, dont moi la première. » Elle ignorait que jusque-là, je n'avais jamais participé à la Coupe du Monde des champions en nombre de femmes. Cher ami, pour la gloire de qui vis-tu? Dieu créa Adam et Ève à son image, selon sa ressemblance, pour qu'ils lui rendent toute la gloire qui lui est due. Et cela ne serait possible que s'ils mangeaient de l'arbre de la vie. Alors, et c'est seulement alors, qu'ils auraient eu la vie des dieux consommée et pleinement consommée en eux. Une personne qui n'a pas la vie éternelle en elle ne peut pas glorifier Dieu. La gloire de Dieu dans la vie d'un homme passe nécessairement par le salut, c'est-à-dire par l'obtention de la vie divine, qui est la vie éternelle. Adam et Ève, contrairement à ce que pensent plusieurs, n'avaient pas perdu la vie éternelle, puisqu'ils ne l'avaient jamais reçue, étant donné qu'ils n'avaient pas encore mangé de l'arbre de la vie. La doctrine chrétienne est qu'on ne perd pas la vie éternelle. Le Seigneur Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, versets 27 jusqu'à 29. « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne les arrachera de la main du Père. Oui, on ne perd pas la vie éternelle, puisqu'elle est, de principe, éternelle et non temporaire, et on l'obtient une fois pour toutes. Par contre, on peut perdre son titre de champion du monde le jour où l'on rencontre un plus fort que soi-même qui vous bat. Il peut aussi se faire qu'on soit déchu de son titre de champion du monde à la suite d'une décision d'annulation, si l'on découvre après coup qu'une erreur avait été commise dans l'attribution du titre ou s'il y avait eu tricherie ou corruption pour son obtention. Les exemples sont nombreux dans l'histoire des compétitions sportives modernes. Comment peut-on avoir la vie éternelle, celle qu'Adam et Ève auraient dû avoir s'ils avaient mangé de l'arbre de la vie? C'est en croyant en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Ça veut dire Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qui nous est dit dans Jean au chapitre 3, verset 16. Combien il est merveilleux de constater que l'arbre de la vie, placé au milieu du jardin d'Éden, le paradis terrestre, est une image de Jésus-Christ. Et dans la Nouvelle Jérusalem, le paradis éternel, la ville sainte où Jésus-Christ, l'agneau, habitera avec ses rachetés, Dieu y placera au milieu l'arbre de la vie. On le voit dans l'Apocalypse au chapitre 22, verset 2. L'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse, est aussi l'auteur de l'évangile qui porte son nom. Il nous dit, dans le chapitre 20 de son évangile, au verset 31, il nous indique le but pour lequel il l'a écrit. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean précise au verset 30 que Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. La Bible nous livre l'essentiel que nous devons connaître de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle en son nom. C'est lui, l'arbre de la vie que Dieu place devant chaque homme comme but à atteindre. Il nous donne lui-même dans Jean au chapitre 17, verset 3, la définition de la vie éternelle. Et c'est la définition biblique de cette expression. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ ici, c'est avoir une relation vitale avec lui. Quand quelqu'un connaît personnellement Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, toute sa vie change de fond en comble. La vie et les caractères de Jésus-Christ sont manifestés en lui. L'apôtre Paul faisait de cela son but, tel qu'il nous le dit dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 3, verset 10. « Mon but, dit-il, est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. » Voilà un homme qui a joué la Coupe du Monde pour la vie. Il a marqué le but qui a fait de lui un champion du monde de la vie. Ce but, c'est connaître celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », à savoir Jésus-Christ, et de devenir conforme, c'est-à-dire semblable à lui. Ceux qui suivent le chemin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont trompés par le diable, le père du mensonge. Ils suivent chacun leur propre chemin et sont morts. Vous pouvez mieux le comprendre en lisant Ésaïe chapitre 53 au verset 6. Je lis. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Nous étions tous errants. Cela signifie que nous étions tous égarés, perdus. Tous sans distinction. L'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché. » Et le prophète Osée, de son côté, le dit aussi au chapitre 6, verset 7. « Eux, comme Adam, ont transgressé l'alliance. » Mais quelle est l'alliance qu'on a transgressée? Eh bien, on a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Ésaïe dit, chacun suivait son propre chemin, sa propre voie. L'arbre de la connaissance, à l'inverse de l'arbre de la vie, comportait deux volets ou deux parties. Le volet connaissance du bien et le volet connaissance du mal. Il y en a qui sont perdus, malgré qu'ils connaissent le bien et s'efforcent de le faire. D'autres sont eux aussi perdus à cause du mal qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Tous sont perdus. Que ce soit en faisant ce que on peut appeler humainement le bien, et bien que ce soit en faisant le mal, on est perdu de la même manière. Quelqu'un peut avoir renoncé à aller au bar, il a bien fait. Mais ce bien qu'il a fait est fondé non sur la crainte de Dieu, mais sur le fait que, ayant des enfants adultes, il redoute le déshonneur de se croiser avec eux dans ces endroits de mauvaise vie. Il se pourrait aussi qu'il soit seulement en train de fuir des dépenses inutiles, conscient de ses lourdes charges familiales. Donc, il fait le bien, certes, mais pour des raisons économiques et de prestige personnel. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, verset 3, l'apôtre Paul dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. » Mais comment quelqu'un peut-il faire des dons, même se livrer en sacrifice, sans avoir l'amour? Ah ben, cela est impossible. L'amour vu du point de vue des dieux. Les œuvres philanthropiques ou les œuvres de charité, les sacrifices de vie pour les autres, au nom du patriotisme, tout cela, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ne peut sauver personne. On a de grands hommes dans ce monde qui se sont livrés pour leur nation. Qui vous dit que Nelson Mandela, ce grand homme, était un enfant de Dieu? Qui vous dit que quelqu'un comme Patrice Lumumba, qui s'est livré pour le Congo, était un enfant de Dieu? On peut multiplier des exemples dans ce sens-là. La religion humaine nous apprend à faire le bien. Quand je porte sur mon costume le crucifix, alors que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Alors, est-ce faire le bien? Le crucifix fixé ou attaché à mon costume? En quoi est-ce que cela montre que je suis disciple de Christ. La Bible dit, soyez saints comme votre Père est saint. Au lieu de poursuivre la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu, vous portez une colle pastorale blanche. Est-ce cela le bien qui plaît à Dieu? Non! La connaissance du mal est une chose universelle et nous n'avons pas besoin d'y insister. Déjà dans la Genèse, au chapitre 6, au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur n'est concevé que des pensées mauvaises. Voilà, le mal, c'est quelque chose qui s'étend à tous les hommes. C'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. Dès l'enfance, nous faisons le mal. Et ce mal que nous commettons, lié à notre nature humaine, eh bien, ce mal-là nous amène à la mort. Que ce soit le bien qu'un homme puisse accomplir, que ce soit le mal, eh bien, tous les deux, quand nous les commettons, cela nous amène à la mort. Pour faire le bien, selon Dieu, que faut-il donc? Le prophète Ésaïe nous en livre le secret dans son livre. Ésaïe, chapitre 1er, au verset 16 et 17. À la fin du verset 16 et au début du verset 17. Je lis. Ceci de faire le mal, apprenez à faire le bien. L'erreur que beaucoup commettent est celle d'apprendre à faire le bien alors qu'ils n'ont pas encore cessé de faire le mal. Ce fut l'erreur de Gédéon. Gédéon bâtit à l'Éternel un autel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Démolis l'autel de Baal qui est à ton père. » Et abat le poteau d'Achéra qui est déçu. Tu bâtiras ensuite et tu poseras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel, ton Dieu. On peut le voir dans Juges au chapitre 6, verset 24 jusqu'au verset 27. Gédéon ne pouvait normalement bâtir à l'Éternel un autel qu'après avoir démoli l'autel de Baal. Commence, cher ami, par détruire à travers une vraie repentance toutes les mauvaises choses qui t'ont éloigné des dieux, en les confessant nommément une à une. La repentance est quelque chose d'indispensable. La repentance est quelque chose qui accompagne toujours une vraie foi. On ne peut pas prétendre se tourner vers Dieu sans se détourner de ses péchés, des idoles et de toutes les vanités de ce monde. Ensuite, tu peux apprendre à faire le bien, parce que si tu t'es repenti, si tu as détruit les autels bâtis pour le diable, des autels bâtis pour ta propre glorification, eh bien, maintenant, les conditions sont réunies pour que tu puisses rebâtir sur une nouvelle base, à savoir Jésus-Christ. Tu peux apprendre maintenant, par la foi, à faire le bien. Et faire le bien, selon Dieu, c'est une seule chose. Le Seigneur Jésus le dit dans Jean au chapitre 6, du verset 28 jusqu'au verset 29. Ils lui dirent, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres des dieux ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre des dieux, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Dieu ne demande pas à l'homme quelque chose ou quelque œuvre que ce soit pour qu'il ait la vie éternelle. La seule œuvre, c'est de croire en Jésus-Christ. Crois que Jésus-Christ est le Fils des dieux, donc Dieu, et crois qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour que tu aies la vie éternelle, qui est une vie nouvelle, qui vient des dieux, qui est une vie juste et sainte. La foi qui te sauve en Jésus-Christ n'est autre que la confiance absolue à placer en sa personne et en son œuvre. Cette confiance du cœur, tu dois l'exprimer par les paroles de ta bouche, comme il est écrit dans les psaumes et dans la deuxième épître aux Corinthiens. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alors maintenant, tu peux lancer et diriger le tir de ta foi vers le but. Vers Jésus-Christ, lui, l'arbre de la vie, là, à la croix, là, au bois de Golgotha. Le tir de ta foi portera certainement son coup, atteindra le filet de la perche et tu marqueras le but de la vie éternelle. C'est alors qu'on entendra cette clameur, wouah, des cris de joie, comme dans un stade de football, lorsqu'un but est marqué, des cris de joie des anges. Car le Seigneur Jésus a dit qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Baissons nos têtes et invoquons le nom du Seigneur, supplions sa grâce. Si tu as besoin maintenant de demander à Jésus-Christ de te pardonner tes péchés, tes égarements, tu peux maintenant le dire. Seigneur Jésus, je viens à toi, sachant que j'ai raté ma vie. J'ai poursuivi bien des choses vaniteuses. J'ai couru après le vent. Maintenant, j'ai réalisé que c'est toi le vrai chemin. C'est toi la vie. Je viens à toi. Je te confesse mes péchés. Pardonne-moi. Lave-moi dans ton sang qui a coulé à Golgotha. Et donne-moi en ton nom la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu mourus pour mes péchés et que tu ressuscitas pour ma justification. Merci Seigneur Jésus de me sauver, de me rendre libre et de faire de moi une nouvelle créature pour la gloire de ton Dieu. Amen.